Chapitre 23e, la rencontre. Amensus alla un jour vers Gunhilde et la pria de présenter à la diaconesse Pentadia une jeune fille qui désirait être reçue au nombre des catéchumènes. Il ne pouvait l'accompagner lui-même, parce que l'impératrice, qu'il employait souvent comme secrétaire intime, avait besoin de ses services dans ce moment même. La jeune personne en question, échappée de la maison de son père qui était païen et méchant, désirait trouver un lieu de protection où elle pût être instruite de la religion chrétienne. Gunhilde se montra tout disposée à la conduire. « Mais, demanda-t-elle à Amensus, tenez-vous à ce que je la présente à la diaconesse Pentadia plutôt qu'à tout autre ?»«
Nullement,
répondit Amensus. « Et vous avez à cet égard le choix libre. »« Alors je conduirai la petite à Olympia. Je la connais un peu. Envoyez-moi donc votre protégée. » « Je l'ai confié déjà aux personnes qui vous servent, noble Gunhilde. J'étais sûr à l'avance de votre acquiescement à cette œuvre de charité. Oh, puissions-nous remplir toute notre vie d'œuvres de charité. Combien nous serions heureux !» s'écria Gunhilde. « Ne vous fâchez pas si je vous contredis déjà, » répondit Amensus. « Pour éprouver un très grand étonnement, je ne vais pas jusqu'à la colère, » répondit-elle. Ce n'est pas l'accomplissement des actes de charité qui nous rend heureux, noble Gunhilde, mais l'esprit avec lequel nous les accomplissons. Et cet esprit fait de nos moindres actes des œuvres de charité.
« C'est très vrai, » fit-elle.
« On peut, par ennui, ou pour changer, accomplir un acte de charité comme je suis sur le point de le faire. Et c'est alors pour nous une simple distraction, et non une véritable joie.
« Vous vous calomniez, » dit-il avec bienveillance.
« Non, » répondit Gunhilde avec une profonde tristesse, « il y a en moi un désert. Et quand tous les flots du monde le submergeraient, ce serait toujours un désert. » Amensus voulait l'interrompre.
« Je sais ce que vous voulez dire, » fit-elle. « Si je suis ainsi, c'est de ma faute.
Peut-être. Mais je reste fidèle à la foi de mes pères. Et la fidélité est aussi une vertu.
Certainement, quand elle est à la place voulue, et dans les conditions voulues.
Si vos ancêtres s'étaient nourris de poison, voudriez-vous continuer à en prendre, tout en sentant que vos forces dépérissent, sous prétexte que c'était la coutume de votre pays ?
Non.
Aussitôt que j'aurai la conviction que cette nourriture est du poison, certainement non.
Et dans ce cas, que penseriez-vous ? Que feriez-vous ?
Je penserai qu'il doit m'être permis de renoncer à la coutume de mes pères, et je chercherai une nourriture saine.
« Et pourquoi ne faites-vous pas pour votre ami mortel ce que vous feriez pour votre corps périssable ?»«
Mais c'est assez. Mon devoir m'appelle auprès de l'impératrice, pendant que vous aurez la bonté de conduire la pauvre Flora auprès d'une diaconesse. »
Gunhilde fit venir Flora aussitôt qu'Amensus l'eut quittée. Elle était toute jeune et fort belle, mais pâle et timide. L'attitude noble et fière de Gunhilde l'impressionnait vivement. Elle répondait à ses questions d'un air troublé et craintif. Gunhilde apprit d'elle qu'elle était fille d'un changeur, en qui l'avarice avait étouffé tout autre sentiment. Les pièces d'or étaient ses seules divinités. Il voulait que sa fille se dévoie aussi à ce culte, et pour l'y amener, il chercha à étouffer, à tuer dans son âme toute pensée noble, tout sentiment élevé. En même temps, il la forçait à prendre part au culte des faux dieux du paganisme qui existait encore en secret même à Constantinople. Mais Flora résista à cette pression. L'esprit du christianisme, répandu dans l'air pour ainsi dire, exerçait sur tous son influence salutaire. Flora n'avait plus de mère, et la vieille esclave de son père n'avait pas de meilleurs sentiments que lui. Cependant, par des voisins chrétiens, elle avait entendu parler d'une foi céleste, dont les maximes et les promesses lui parurent merveilleusement belles et aimables. Et en dépit de tous les mauvais traitements qu'elle eut à souffrir de la barbarie de son père, elle persista à vouloir se faire chrétienne, mais elle ne savait comment. Sa bonne voisine lui conseilla de s'adresser à Amensus. Le pieux grand chambellan, qui étant en grande estime auprès de l'impératrice et de toute la cour, aurait le pouvoir de la protéger. Flora alla donc à lui, remplie du désir d'être chrétienne.
« Et quand vous le serez, après ?» demanda Gunhilde.
« Je ne sais pas, » répondit Flora.
« Mais que désirez-vous? Qu'est-ce qui vous plairait ?»
Et Gunhilde, presque impatientée. « Être chrétienne ? dit Flora d'un air craintif. « Je le sais, ma fille, je le sais. Mais la vie ne finira pas pour vous le jour où vous serez chrétienne. Elle ne fera au contraire que commencer à nouveau. Que deviendrez-vous alors ?»«
Je ne sais pas, » dit Flora.
« Mais cela m'est tout à fait indifférent. Je veux seulement être chrétienne. Votre père vous maudira, il vous haïra, il vous chassera, vous perdrez son amour et sa fortune. »
« Oui, il le fera, »
dit Flora en pleurant.
« Mais je veux être chrétienne. »
Gunhild pensa en elle-même qu'une pareille fermeté d'esprit valait plus que tous les dehors brillants et toutes les splendeurs qu'elle avait à son service. Sans vouloir se l'avouer, elle se réjouissait d'avoir l'occasion de revoir Olympia et de comparer la diaconesse avec l'apparition idéale de cette belle soirée, éclairée par la lune et les étoiles, dont le souvenir, bien qu'éloigné de 4 ans, restait gravé dans son imagination. Ce ne fut pas sans émotion que, suivie de la silencieuse Flora, elle traversa le palais d'Olympia. Elle fut introduite dans le salon où Olympia se faisait un devoir de recevoir les personnes du monde. Cependant, elle aurait préféré revoir la petite chambre avec la cour étroite et la fontaine jaillissante. Bientôt, Olympia entra. Gunhild oublia la chambre, le palais, l'entourage et tout le reste. Elle dit seulement qu'elle amenait une protégée d'Amensus. Et puis elle se mit à considérer Olympia. Olympia avait maintenant 28 ans. Son genre de vie dure et pénible, uni à une complexion très délicate, avait enlevé à son visage toute la fraîcheur de la jeunesse. Mais le pur éclat de ses yeux, son regard calme, son doux sourire et l'affable simplicité de toute sa personne lui donnaient une expression de candeur d'âme qui exerçait un charme infiniment plus puissant que l'éclat passager de la jeunesse et qui, joint à ses traits distingués et à son noble maintien, faisait d'elle une très belle femme. Auprès des beautés animées par les passions de toutes sortes et défigurées par la vanité et le désir de plaire, les seules que Gunhild était habituée à voir, Olympia produisit sur elle l'impression d'un ciel étoilé comparé à un feu d'artifice. Olympia, après quelques paroles amicales à Gunhild, se tourna du côté de Flora, lui demanda ce qu'elle désirait.
« Oh, rien que d'être chrétienne, » répondit-elle tout simplement.
« Et vous avez raison, mon enfant, » dit Olympia. « Ce désir embrasse tout pour le temps et l'éternité. Celui pour lequel il s'accomplit n'a plus à se soucier du reste. Dieu lui a donné ce qu'il y a de plus précieux, et il ne la laissera pas manquer de ce qui vaut infiniment moins.
« Oh, madame, comme vous êtes bonne !» s'écria Flora.
Elle fondit en larmes et tomba aux genoux d'Olympia.
« Non, pas moi, ma pauvre enfant. Dieu est bon, »
dit Olympia affectueusement. « Ainsi donc, je vous garde maintenant ici. Vous y trouverez plusieurs jeunes filles qui veulent être instruites de la religion chrétienne et se préparer à recevoir le saint baptême. Ce sont de bonnes âmes toutes animées de la même pensée, et j'espère que vous vous sentirez à l'aise au milieu d'elles. Théonée va vous conduire à l'instant. » Flora était si émue qu'elle ne sut que bégayer quelques mots de remerciement pour Gunhild et Olympia. Théonée ne tarda pas à paraître, elle emmena Flora. Qu'il est consolant de voir une jeune personne soupirer après la vraie foi, avec une ardeur telle que sans questionner, sans douter, sans interroger, elle va droit au but. Flora agit comme les 3 saints rois de l'Orient auxquels l'étoile était apparue. Flora a eu aussi son étoile mystérieuse, la grâce. Olympia parlait avec une joie intime qui rayonnait sur son visage. Gunhild resta froide. Je ne puis me réjouir ainsi sans réserve d'un bon commencement, car je ne sais pas si la suite y répondra.
Personne ne le sait, si ce n'est Dieu seul, répondit Olympia. Mais en attendant, nous lui rendons grâce et nous espérons en lui, et cela nous donne de la joie.
Il faut, dit Gunhild, avoir fait des expériences très heureuses dans le royaume des conversions, pour pouvoir toujours espérer aussi énergiquement.
« Oh !» s'écria Olympia, « j'espère en Dieu et non dans les hommes. C'est pour cela que leurs défaillances ne doivent pas nous rendre défiants et timorés. »«
Mais nous vivons avec les hommes, » dit Gunhild.
« Et aussi avec Dieu, sans doute ?»
demanda Olympia en riant. « Comme vous avez connu autrefois la cour et la vie qu'on y mène, vous comprendrez que l'un disparaît derrière l'autre. Comme nous le voyons au Paramassus, n'est-ce pas ?»
« Le plus souvent, c'est justement l'inverse, » répondit en riant Gunhild. « Et comme c'est le cas le plus fréquent,
et il frappe davantage les yeux et laisse une impression plus vive. C'est l'effet qu'il me produit. Si le roi mage avait pensé comme vous, noble Gunhild, il serait allé tout au plus à Jérusalem, sans pousser plus loin leur voyage, parce qu'il n'y aurait rencontré personne qui s'occupât de celui qu'ils ont trouvé et adoré dans la pauvre étable de Bethléem. Celui qui cherche la route du ciel ne doit pas s'arrêter à considérer ceux qui courent dans les voies du monde. « N'est-ce pas là de l'orgueil ?» demanda Gunhild. « Derrière cette crainte de l'orgueil, ne se cacherait-il pas un refus tacite d'entrer dans les voies célestes ?» demanda à son tour Olympia. « Vous voyez loin ?» dit Gunhild en riant. « Et je pense que vous dites vrai. Mais puisque vous dites la vérité, ne vous fâchez pas que je vous demande si vous êtes heureuse. Qu'appelez-vous bonheur ? Avoir la fortune, la santé, un rang, une position, est-ce être heureux ? Ce sont là des conditions extérieures du bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. Est-ce le respect, l'admiration que le monde, et même ce qui s'y trouve de plus noble, professe pour les hautes vertus, les qualités rares, les grands talents ? Est-ce là ce que vous appelez le bonheur ? C'est de l'éclat, non du bonheur. Est-ce les joies intimes de la vie de famille ? L'affection réciproque entre époux, entre parents et enfants, entre amis animés des mêmes sentiments, est-ce là le bonheur ? C'est un bonheur périssable, ce n'est pas le bonheur. Ce que je me représente comme le bonheur, c'est quelque chose qui doit suffire pour le temps et pour l'éternité. Si vous l'entendez ainsi, je suis heureuse, répondit Olympia, en reposant sur Gunhild un regard plein d'un tendre intérêt. Oh, heureuse femme ! De vous savoir en possession d'un bien périssable, s'écria Gunhild. Le bien périssable doit être le vrai bien, le bien éternel. Il doit nous rendre éternellement heureux. Oh, combien je serais tenté de vous porter en vie, si je n'étais plus fortement encore poussé à vous aimer. Et à vous aimer d'autant plus, que j'ai sous ce rapport beaucoup à réparer. J'ai été mécontente de vous voir devenir diaconesse. Mais si vous avez trouvé le bonheur dans ce chemin, ou alors vous êtes une enfant chérie de Dieu, et je veux vous aimer. Il est plus sûr d'aimer Dieu que ses enfants chéris, dit Olympia avec douceur pour calmer cette effervescence subite de sentiments. En même temps, elle se leva. Quoi ? Vous me renvoyez ? Fit Gunhild étonnée. Mes devoirs m'appellent, répondit Olympia. Et vous n'avez jamais le temps de causer intimement avec vos amis ? Avec les cœurs auxquels vous faites du bien ? Oui, quelquefois, mais jamais très longtemps. Je trouve que c'est faire un très grand sacrifice. Si vous pensez qu'on peut conquérir le souverain bien sans faire ces sacrifices qui coûtent à la nature, vous vous trompez. Le souverain bien est un bien de grâce. Il ne réside pas dans les cœurs qui s'ouvrent aux joies naturelles. Celui qui possède un diamant de prix le garde précieusement dans un écrin à part. Et ne laisse pas traîner parmi tous les ustensiles de la maison. Je viendrai vous voir en mendiante, alors je suis sûr d'avoir audience tous les jours, dit Gunhild de son air le plus gracieux. Elle quitta Olympia le cœur ému, comme si elle avait trouvé un grand trésor pour lequel elle devait remercier Dieu. Sans s'expliquer comment cette pensée lui venait, elle donna à ses porteurs l'ordre d'aller à Sainte-Sophie. Elle y allait quelquefois pour entendre un sermon, de temps en temps encore pour accompagner l'impératrice, mais jamais pour prier. Comme Arienne, elle évitait de fréquenter les églises catholiques. Mais aujourd'hui, ce qu'elle voulait, c'était de se trouver dans un lieu de prière. Elle quitta sa chaise dans la grande avant-cour et entra dans la basilique. Là, elle releva son voile et s'agenouilla auprès d'une colonne, le visage tourné vers le maître-autel. À toute heure de la journée, jusque bien avant dans la soirée, l'église Sainte-Sophie était visitée par les fidèles, en plus ou moins grand nombre. C'était un mouvement continuel d'aller et venu auquel personne ne faisait attention. Gunhild ne remarqua donc pas qu'un jeune homme se tenait en face d'elle à quelque distance, s'éloignait un peu, revenait à sa place, et restait à quelques pas d'elle tout le temps qu'elle passa en prière, à quelques intervalles près. Ces courts moments d'absence, le jeune homme les employait à examiner les chaises à porteurs qui stationnaient dans l'avant-cour. Il n'y en avait en ce moment qu'un petit nombre. Le jeune homme entra en conversation avec les porteurs et apprit bientôt que la jeune fille si belle qu'il avait vue dans l'église n'était autre que la noble Gunhild. Jamais ses yeux n'avaient été frappés d'une beauté aussi remarquable. Quand Gunhild se leva enfin, son regard tomba sur le jeune homme qui la fixait d'une façon si étrange et si inconvenante. Elle détourna les yeux d'un air fier et sévère, abaissa son voile, sortit de l'église et reprit sa chaise. Le jeune homme la suivit de loin. Quand il vit que les porteurs prenaient le chemin du palais Constantin, il prit une autre direction et parut peu d'instants après et dans un état de vive agitation au palais de Graffia. Graffia était dans son salon. Les visites allaient et venaient. Tout d'un coup, une de ses dames de compagnie s'approcha d'elle et lui dit à l'oreille que l'on avait une nouvelle sérieuse à lui communiquer. Graffia se leva aussitôt, congédia toutes les personnes présentes avec l'air solennel d'une reine et se rendit dans son cabinet. « M'apportez-vous de bonnes ou de mauvaises nouvelles d'Alexandrie ou d'Antioche ?» dit-elle en entrant dans son cabinet, où Eugénius marchait d'un air agité. « Oh, je ne m'en occupe plus, » fit Eugénius. « Ma destinée est entrée dans une voie où elle reste insensible aux questions de cette sorte. »« Que vous est-il arrivé ?» demanda Graffia avec l'anxiété du plus vif intérêt. « Vous m'avez aimé comme une mère, » dit-il, toujours ému, surexcité. « Oh, tenez-moi, lieu de mère, en ce moment. Et aidez-moi à faire mon bonheur, mon vrai bonheur. »«
Volontiers, de tout cœur, mais comment ?»«
Vous savez que des considérations extérieures m'ont seul porté à choisir l'état ecclésiastique. Et je l'ai fait à un âge où je ne me connaissais pas encore moi-même, et où je ne connaissais ni le monde ni la vie. Avec les années et la réflexion, j'ai vu très clairement que je n'étais pas dans ma voie. Et que je n'avais rien du prêtre. J'aurais encore pu retourner en arrière si le patriarche Nectaire et vous m'aviez averti. Vous ne l'avez pas fait. Au contraire, je reçus d'abord les ordres mineurs et ensuite, bien que mon oncle eût pu se convaincre de mon inaptitude, je fus ordonné. Mais je ne changeais ni de manière de voir ni de conduite. J'avais en horreur l'état ecclésiastique. Et j'ai vécu comme on vit avec ses sentiments. Sans aucun doute, Chrysostome ne pouvait faire autre chose que ce qu'il a fait. Il devait m'interdire les fonctions sacerdotales. Qu'il soit loué de cette sage conduite, car maintenant je suis fermement résolu à rentrer dans la vie laïque et à me marier. Graffia fut comme frappée d'un coup de foudre. « Malheureux, » balbutia-t-elle d'une voix éteinte, « c'est impossible. Vous êtes prêtre, ordonné par votre évêque. » « Non, seulement par mon oncle. Comme évêque, il n'aurait pu agir ainsi. » Ce sont là des subtilités. Vous avez eu les ordres sacrés. Le monde est fermé pour vous. Réfléchissez. Oui, c'est tout réfléchi. Je sais ce que je veux. Et je vous prie, je vous conjure de le vouloir avec moi. Votre influence est toute puissante. Obtenez de l'impératrice qu'elle me procure une dispense. Malheureux, vous connaissez bien peu l'impératrice pour vous imaginer qu'elle prêtera la main à un pareil sacrilège. Et vous me connaissez bien peu moi-même. « Je connais la tendresse maternelle de votre amour, c'est tout dire. Pensez-vous que j'étais heureux jusqu'à présent? Vous êtes trop clairvoyante pour le croire. Eh bien maintenant, je veux être heureux, d'une manière honorable, et me marier. Où trouver une créature qui consente à se jeter dans l'abîme de votre perdition ?» fit Graffia avec l'accent du désespoir. Elle voyait en esprit la colère de Doxia, le triomphe de Chrysostome, et Eugénius condamné au bannissement ou à la prison. « Écoutez-moi avec calme, » dit Eugénius, « et puis secondez-moi. Je vais souvent dans les églises, pas pour y prier. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai vu, à Sainte-Sophie, une femme qui a décidé de ma vie en mettant fin à toute sa misère. Elle a, par hasard, jeté un regard sur moi. Ce fut pour mon cœur comme une nouvelle étoile de bonheur qui lui apparaissait. Jamais aucune femme n'a produit sur moi cette impression, jamais. Je puis me sauver en m'attachant à elle, et je le veux. »
« Qui est-elle ? » demanda Graffia d'un ton glacial.
« Gunhild, la pupille de l'impératrice. Elle est arienne. Ah, tant mieux ! Alors toute dispense est superflue. Je ne ferai à rien. » Graffia tressaillit de la tête aux pieds.
Les hommes qui suivent leurs mauvaises passions ne comprennent pas que d'autres se laissent également entraîner par leurs mauvaises passions.
Graffia vivait dans la trahison à l'égard de l'Église. Renier l'Église était pour elle quelque chose d'incompréhensible. Les choses n'en viendront pas à cet excès de honte et d'ignominie, dit-elle avec une colère mal comprimée. car Gunhild a le cœur trop haut pour ne pas mépriser profondément un prêtre renégat. Elle ne le fera pas. Elle est arienne. Elle doit donc se réjouir de gagner quelqu'un à sa secte. Et sa joie sera d'autant plus grande qu'elle-même aura donné l'impulsion. Gunhild a refusé des propositions de mariage fort brillantes qui lui ont été faites par l'impératrice. Elle ne veut pas se marier. Et je ne crois pas qu'elle change de résolution en faveur d'un homme deux fois renégat. Eugraphia parlait d'un ton plein de mépris. « Oh, écoutez-moi, parlez-lui en ma faveur !» s'écria Eugénius, vivement surexcité. « C'est le moment décisif de ma vie. Je vous en supplie, je l'en supplie. Tendez-moi la main. Aidez-moi à sortir de cette torturante impasse. Je ne puis être un bon prêtre, et je ne veux pas en être un mauvais. Je ne veux pas dépasser la mesure actuelle. Dans d'autres conditions, je pourrais sortir du bourbier. Mais dans l'état actuel des choses, il faut que j'y reste et que j'y périsse. Vous devez le voir, et l'impératrice aussi. Le simple bon sens le dit. Ainsi, ou bien j'obtiendrai une dispense pour entrer dans la vie laïque, ou bien je serai à rien. Ni l'un ni l'autre, dit Eugraphia avec calme. Soyez un homme, Eugénius, et non un enfant insensé qui perd tout à coup de vue son but, parce que ses regards sont tombés sur une jeune beauté. Un brillant avenir vous est ouvert dans la voie et dans l'état que vous avez choisi depuis 10 ans. J'ai horreur d'un avenir brillant, qu'il me faut acheter par des sacrifices, que je ne puis ni ne veux supporter. Je vous en prie, Eugénius, pas d'enfantillage. Peu à peu, vous vous réconcilierez avec votre situation, vous l'aimerez. Laissez seulement passer l'inquiétude turbulente de la jeunesse. Vous prendrez goût aux grandes affaires de l'État et de l'Église. Vous serez appelé à les diriger. Vous voyez le grand travail de réorganisation qui s'opère sur les ruines du polythéisme. Il faut à l'Église des appuis solides contre l'esprit de secte, et à l'État, contre la prépondérance croissante des peuples barbares. Dans ces conjonctures graves, les prélats sont appelés à de grandes choses par l'influence qu'ils exercent sur la société chrétienne en général. Si vous voulez donc sérieusement renoncer à votre vie un peu légère, vous verrez bientôt s'ouvrir devant vous une carrière qui donnera pleine satisfaction à votre ambition et à votre activité. J'exècre l'ambition et l'activité des cabales et des intrigues, fit Eugénius avec emportement. Tout cela ne pouvait m'occuper qu'autant que je ne connaissais rien de mieux. Depuis que j'ai vu Gunhild, un voile est tombé de mes yeux. Et un épais bandeau le remplace, interrompit Eugraphia d'un air de mépris ironique. Croyez-moi, mon pauvre Eugénius, Imperia était beaucoup plus jolie. Ne me parlez pas d'elle, fit Eugénius hors de lui. Il n'est pas permis de la nommer auprès d'un ange comme Gunhild. Cependant, vous étiez autrefois très engoué de la belle Imperia, mon pauvre Eugénius. Je pensais que vous en auriez tiré la conclusion que vous pouviez rencontrer encore 6 ou 12 beautés capables d'incendier votre cœur trop inflammable, et que ce serait par conséquent une folie que de vous précipiter dans le sacrilège et l'apostasie à cause d'une femme. Mais ce n'est pas vous seulement, c'est notre cause que vous compromettriez. Voilà les prêtres du parti de la cour, crieraient nos ennemis. Comme Chrysostome est sage de maintenir une sévère discipline. L'impératrice en concevra une colère sans bornes. Elle vous exilerait dans les déserts de la mer Noire, et Gunhild n'en serait pas moins inaccessible à vos vœux. Pensez-vous ? Demanda-t-il d'un air distrait. Eugraphia espérait la voir à moitié ramenée. Elle continua à lui faire des remontrances et des exhortations d'autant plus vives que Eugénius devint de plus en plus muet. Mais il n'abandonna pas ses idées. Il vit que dans l'état actuel des choses, il ne pouvait s'attendre à trouver aucun aide, aucun concours auprès d'Eugraphia. Mais si la situation prend une tournure surprenante, se dit-il en lui-même, elle ne m'abandonnera pas, je la connais. Quand Eugraphia eut enfin épuisé ses raisonnements, Eugénius lui dit, d'un ton calme en apparence, qu'il y réfléchirait sérieusement. Ils se séparèrent amicalement. Mais ils étaient tous deux en proie à une vive agitation intérieure. À peine Eugénius fut-il parti, que Eugraphia fit appeler Adonis. Adonis parut. C'était un petit homme âgé, d'une physionomie fine et maligne, le plus ancien et le plus intime de ses serviteurs. « Adonis, lui dit-elle d'une voix étouffée, je vous donne la mission de surveiller le noble Eugénius et d'épier tous ses pas et toutes ses démarches. et cela sans qu'il puisse en avoir le moindre soupçon. Que vous le fassiez vous-même, ou que vous en chargiez quelque autre, cela m'est indifférent. Mais il faut le faire. Sans cela, il pourrait lui arriver un grand malheur. M'avez-vous compris ?
Parfaitement, noble maîtresse, parfaitement.
Je ne puis entreprendre moi-même cette surveillance. Je suis pour le noble Génius un visage trop connu. Adon, mon petit-fils, s'en acquittera.
Adon, ce jeune garçon ?
Fit Agrafia d'un ton plein de doute. Il prend de l'âge et de l'intelligence. Et il a l'avantage de n'être certainement pas connu du noble Génius. Il est souple comme un serpent. Et il se chargera de cette besogne, non seulement pour obéir à vos ordres, mais aussi pour son plaisir particulier, ce qui dénote des dispositions remarquables chez un garçon de 14 ans.
« Vous me répondez pour Adon, » dit Eugraphia. « Je le ferai fouetter jusqu'au sang, s'il ne me rend un compte satisfaisant. »